pense qu'il y a un lien clair, j'espère que je pourrai vous montrer ça aussi, avec l'histoire, la grande histoire qui commence à Noël, mais qui se termine aussi avec le retour de Jésus. Avant qu'on lise donc Apocalypse 19, les versets 11 jusqu'à 16, je pense avoir déjà mis un peu devant vos yeux, devant nos cœurs, un peu à tous, qu'il y avait une sorte de différence. Et même nous aussi, on peut des fois être un peu gênés ou on peut trouver ça un peu étrange. Comment Dieu agit? Pourquoi c'est si long? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans quel temps est-ce qu'on est? Il y a une différence parfois entre les promesses assez clair de l'écriture, la justice qui arrive, voilà, le monde rétabli, et ça c'est pas le Nouveau Testament seulement, vous lisez Ésaïe, le lion qui dort à côté de l'agneau, l'enfant qui joue à côté des vipères, il y a plus de mal qui se fait dans le monde parce que Dieu intervient. Mais pourtant quand nous on regarde notre vie, notre situation, on est en train de dire mais c'est pas tout à fait ça. Et je voudrais juste vous aider à voir ça aussi, que Israël, le peuple de l'Ancien Testament, le peuple choisi par Dieu, lui aussi, il a vécu des choses énormes, grandioses. Il y avait l'esclavage en Égypte, Dieu intervient de façon puissante, il ouvre la mer en deux, les voilà dans le désert, en route vers la terre promise. Ils s'installent même dans la terre promise, ils construisent Jérusalem, le temple, la cité du Dieu vivant, Dieu descend, manifeste sa gloire. Mais après ça, à cause de leur idolâtrie, ils se retrouvent chassés, loin de Jérusalem, loin du temple, loin de la présence de Dieu, dispersés dans des nations ennemies, des nations qui n'adorent pas Dieu et même qui sont hostiles au Dieu de la Bible. Et on peut imaginez à quel point ils ont tenu alors aux promesses de l'intervention de Dieu en leur faveur, à nouveau, comme ils l'avaient fait au moment de l'Exode. Et en effet, Dieu intervient, voilà que Cyrus arrive, un grand roi perse, il annonce, voilà, tous ceux qui veulent retourner à Jérusalem du peuple d'Israël, qu'ils sont libres de le faire, qu'ils aillent, qu'ils reconstruisent la ville, qu'ils reconstruisent le temple. Waouh, c'est ce que Dieu avait promis, génial, génial. Pas tous y sont allés. Il y en a qui s'étaient lassés d'attendre la réalisation des promesses de Dieu, mais il y en a quand même un certain nombre qui vont et ils rebâtissent Jérusalem, ils rebâtissent le temple. Mais quand ils comparent avec le temple de Salomon, quand ils comparent le territoire dont ils sont maîtres par rapport à l'époque magnifique où il y avait David et Salomon et les ennemis étaient mis en déroute, c'est pas tout à fait ça. Parce que après les Perses, c'est les Grecs qui arrivent et après les Grecs, c'est les Romains. Et au moment où on a, au début du Nouveau Testament, au moment de la naissance de Jésus, Israël est plus ou moins libre. C'est vrai, ils peuvent faire leur culte, ils peuvent adorer Dieu comme il leur semble bon, ils ont le temple qui est construit, et ils sont rassemblés pour la plupart en Israël, mais ils sont quand même sous domination d'une puissance étrangère. Et si vous comprenez cette histoire, vous pouvez comprendre alors quelle est l'attente des premiers Israélites au moment de la venue de Jésus. Ils attendaient. Quand est-ce que enfin on va voir la totalité des promesses de Dieu s'accomplir? Il y avait pour eux une différence entre déjà quelque chose, mais encore pas tout à fait. Et c'est la même chose que peut-être on peut expérimenter nous. On sait déjà, et si vous avez connu Dieu, si vous connaissez personnellement Dieu, vous pouvez dire avec moi, ça fait quand même une différence aujourd'hui de connaître Jésus. Vous pouvez voir le moment où vous vous débattiez dans la boue de votre vie sans Dieu, dans les ténèbres, sans sagesse pour savoir prendre des décisions correctes, en train d'être esclave de tout un tas de péchés, de choses qui vous pourrissaient la vie. Et vous saviez que c'était pas juste des pressions extérieures, mais que l'ennemi était à l'intérieur, si vous voulez. Que tout ça jaillissait d'un cœur mauvais. Et si vous avez connu le Seigneur, si vous avez mis maintenant votre confiance en Jésus, vous avez déjà senti Dieu descendre avec sa main puissante, vous arracher de cette boue-là, vous mettre sur le rocher plus haut que n'importe qui d'autre pourrait faire ça. Et vous avez vos deux pieds maintenant, solidement installés sur le rocher. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Si c'est pas le cas, je vous invite à considérer Jésus dès maintenant. Vous pouvez expérimenter cela dès maintenant. Et en même temps qu'on peut se réjouir et qu'on peut témoigner de cette vérité-là, en même temps, on reste bombardé par toutes sortes de situations difficiles. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec un papa, un parent d'élève, un ami, il faisait un peu le survol de l'actualité de cette semaine. Donc vous avez peut-être entendu parler de cette personne qui a fait un cliché de Johnny Hallyday dans son cercueil et qui pensait pouvoir le revendre, ou qui essaye de revendre cette photo-là, et ça le choquait. Ce qui le choquait, c'était pas spécialement que ce soit Johnny ou quelqu'un d'autre, mais le fait que quelqu'un ait pensé ce stratagème. Et de lui-même, il avouait, l'âme humaine, elle est quand même bien sombre. Et puis cette histoire avec Miley, cette personne qui semble quand même prise dans ces affaires-là, qui n'avoue pas. Nous aussi, on peut ressentir parfois cette tristesse-là aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit encore vivre ça, Seigneur? J'ai expliqué que on est comme dans deux temps. Dieu a commencé à intervenir, il va finir d'intervenir au moment du retour de Jésus. Et du coup, notre attente, elle n'est pas si lointaine de celle de ceux qui nous ont précédés dans la parole de Dieu. Eux aussi attendaient cette même délivrance totale, finale, entière, avoir le salut complètement, totalement, dans nos mains, si vous voulez. Et c'est ce que la Bible, elle dit. Elle dit que la victoire a déjà été acquise, même si la fin de la guerre n'a pas été sonnée. Et si vous voulez, l'illustration que certains théologiens ont utilisée, c'est le débarquement de 1944. C'est lui qui a sonné la fin de la guerre dans un sens. À partir du moment où les Alliés ont pu mettre un pied sur le territoire envahi, c'était fini pour les troupes allemandes. Mais ça ne veut pas dire que la guerre était finie le jour où le premier soldat a mis le pied sur les plages en Normandie. Il y a eu encore des longs mois, la bataille des Ardennes, il y a eu encore des longs combats, et des hommes qui ont perdu leur vie, mais la victoire était déjà acquise à ce moment-là. Et jusqu'au 8 mai 45, où il a fallu attendre la déclaration, voilà, c'est fini, une fois pour toutes maintenant, cette guerre-là, stop, c'est la paix maintenant. Et c'est la même chose, en fait, dans la Bible. Et donc, en Église, nous avons réfléchi à la victoire de juin 44, si vous voulez, avec le débarquement ces dernières semaines. Et maintenant, je voudrais vous amener à arriver à 8 mai 45, à la fin de la guerre. Parce que si Jésus est venu comme un bébé, qu'il a grandi, qu'il a été jusqu'à donner sa vie sur la croix, mourir pour nos péchés, s'il est remonté au ciel, il a promis aussi qu'il revenait. Et donc, je vous invite à lire avec moi Apocalypse, au chapitre 19, verset 11. Jusque 16. C'est l'apôtre Jean qui écrit et il décrit des visions que Dieu lui a données. Et ces choses qu'il entrevoit, ces paroles qui lui sont données à écrire, elles sont là pour nous encourager, nous, dans notre attente. Apocalypse 19, verset 11. « Alors, je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparu. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont comme un feu flamboyant. Sur sa tête, il y a beaucoup de diadèmes. Il porte un nom écrit que personne ne connaît, sinon lui. Et il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il doit frapper les nations. C'est lui qui les fera paître avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule la cuve du vin de la colère ardente de Dieu, le Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. roi des rois et seigneur des seigneurs. Je voudrais partager avec vous cinq petites idées autour de ce texte. La première, c'est que nous sommes en train de lire une description de Jésus-Christ. Et juste, vous voyez son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et si vous faites juste le parallèle avec Jean au chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, la parole de Dieu a été faite chair. Elle est venue parmi les hommes. Elle a habité parmi nous. Et cette parole de Dieu, Dieu le Fils, celui qui était avec Dieu, auprès de Dieu, et qui était Dieu lui-même, a revêtu la nature humaine. Elle est venue habiter parmi nous. C'est ce même Jésus-Christ que nous célébrons, dont nous célébrons la naissance à Noël, qui revient maintenant. Mais plus comme un bébé, est-ce que vous avez vu ça? Comme un cavalier, un guerrier, un roi qui va établir la justice. Et donc, si nous voyons cela, la juste attitude que nous devrions avoir, n'est-ce pas, devant une telle vision. Et quand je dis vision, j'ai peur que vous puissiez imaginer légende, petite historiette pour essayer de faire un peu mousser nos émotions. Non, c'est que nous lisons est vrai, aussi vrai qu'on peut décrire quelque chose d'aussi grand et glorieux que la venue de Dieu en personne à nouveau sur cette terre. Il y a une part du langage qui est un peu symbolique, un peu figuré. D'accord? Mais si tout ce que l'on a lu, est vrai, une réponse juste de notre part, c'est d'être humble. Alors, devant le Dieu éternel et mystérieux qui vient jusqu'à nous. Être humble et rechercher avec avidité tout ce qu'il nous donne à connaître de lui. Et la première idée, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que il y a tout un tas de choses qu'on connaît sur ce personnage. Jean nous donne des adjectifs qui qualifient Jésus tel qu'il vient. Est-ce que vous avez vu avec moi ? Il est fidèle et véritable. Il est la parole de Dieu. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il y a tout un tas de choses que l'on peut connaître alors sur Jésus. Parce que il est parole de Dieu, donc il est en train de révéler qui est vraiment Dieu. Il se fait connaître. Quand vous voulez connaître quelqu'un, vous prenez du temps, prenez un café avec la personne et vous discutez avec elle. Et plus vous passez du temps avec une telle personne, plus vous êtes capable de connaître ce qu'il y a vraiment au fond de cette personne. Vous êtes capable de connaître la personnalité de la personne qui est en face de vous. De la même manière, Dieu a voulu que nous le connaissions. Et c'est pour ça qu'il a envoyé celui qui est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est fidèle. Elle est fidèle, elle est conforme à la réalité de qui est Dieu, de qui nous sommes, de la réalité du péché dans le monde, de la réalité de la justice que Dieu veut donner à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Elle est fidèle, elle est véritable, elle est authentique. Et aussi, puisqu'il porte le titre de roi des rois, de seigneur des seigneurs, c'est une parole qui a autorité sur notre vie. Celui qui est la parole de Dieu a toute autorité sur toute notre vie. Et vous voyez, on est là en train de dire, oh, mais je connais ce Jésus-là, j'en ai entendu parler, je peux lire ses paroles même dans les évangiles, dans toute la Bible. Dieu se révèle. Et en même temps, verset 12, la deuxième partie, en nous lisons qu'il porte un nom écrit que personne ne connaît. En même temps, il ne faut pas s'imaginer que nous, créatures, nous pourrons un jour faire le tour de Dieu et pouvoir décrire et maîtriser ce Dieu-là qui se révèle. Nous ne pourrons pas utiliser Dieu à notre guise parce qu'il reste Dieu et il nous dépasse. Il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, penser. Et heureusement, n'est-ce pas ? Heureusement que nous sommes sous l'autorité d'un Dieu qui est infiniment puissant, infiniment grand. On n'aura jamais fait le tour de ses limites. Il est sans limite, il est infiniment bon aussi. On ne doit pas redouter de passer l'éternité avec lui parce qu'on ne va jamais se lasser de découvrir encore et encore et encore et encore tout ce que Dieu est en réalité, ce qu'il est pour nous. La parole au premier Noël a été faite chair. Jean chapitre 1 nous dit ça. Nous avons contemplé sa gloire, celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est ça, il y a un nom mystérieux autour de Dieu. Il y a quelque chose de mystérieux qu'on n'a pas accès. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité de Dieu, est venu nous faire connaître tout ce dont nous avions besoin pour être en relation avec le Dieu puissant, créateur. Alors, cette avance-ci, en 2017, réjouissons-nous que Dieu s'est fait connaître. Réjouissons-nous de la révélation de Dieu en Jésus, lui qui est l'image parfaite de Dieu, qui est la réalité même de Dieu dans notre monde. Soyons humbles devant lui et cherchons à connaître celui qui vient bientôt, le cavalier sur son cheval blanc. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est l'écart qu'il y a entre Christ venu comme un enfant et le roi. Il était le roi de l'univers. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a revêtu la nature humaine. C'est ce qu'on dit, c'est l'incarnation. Il est venu au plus près de ceux qui étaient perdus. Vous savez ce que nous sommes en train de traverser en famille. J'ai perdu mon beau-père il y a quelques jours. C'est aussi la raison pourquoi Nathalie est pas là, elle est déjà en Alsace. Et plusieurs avec qui on a annoncé cette nouvelle ont dit « C'est un peu difficile dans cette période de l'année d'entendre une si triste nouvelle. » Et je comprends tout à fait ce que de telles personnes veulent dire, et c'est pas un problème de dire ça dans un sens. Mais en même temps, je voudrais dire que l'histoire de Noël, justement, je suis content d'être rappelé de cette histoire maintenant. Parce que l'histoire de Noël, c'est pas juste tout est beau, tout est gentil, tout est bien. C'est Dieu qui vient justement parce que il y a la mort qui est à l'œuvre dans le monde. C'est Dieu qui vient justement parce qu'il y a la maladie comme conséquence du péché qui est en train de ravager des vies et des familles. Dieu vient parce qu'il y en a qui sont pris sous la coupe du péché. Ils sont esclaves de choses qui les font en train de se détruire. Et Dieu est venu pour sauver, justement, pour libérer, pour régler une fois pour toutes le problème du péché. Et le serviteur souffrant, Jésus, qui de petit bébé a grandi, a révélé qui était Dieu, a donné sa vie sur la croix à la place des pécheurs. Il est mis au tombeau, mais vous connaissez la suite, le troisième jour, c'est sûr et certain, il est ressuscité, plusieurs l'ont vu dans son corps glorifié. Et après l'avoir vu et après avoir témoigné de ça, Christ est remonté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, sur le trône dont il est digne. Ça signifie que il y a en ce moment au ciel un homme assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Il y a en ce moment au ciel quelqu'un qui a la nature humaine, Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu et qui règne. Et c'est ce même Jésus dont nous sommes en train de parler. Il revient maintenant. Il a promis qu'il revenait pour juger le monde. Et voyez avec quelle puissance il va revenir. Il commande à l'armée des cieux et elle le suit, elle lui obéit. Regardez verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. C'est lui qui est en avant, mais derrière lui, il a toute une troupe avec lui. Et tous lui obéissent. Il a beaucoup de diadèmes sur sa tête. Rappelez-vous les paroles que Jésus a dit avant de remonter au ciel. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus est déjà celui qui a la couronne, voilà, le symbole du règne sur la terre. Comme il a la couronne de celui qui règne au ciel. Comme il a la couronne de tout, en fait, les domaines de la vie humaine. C'est lui qui règne suprêmement. Il a beaucoup de diadèmes sur sa tête, beaucoup de couronnes. C'est celui-là qui vient pour établir aussi son autorité sur la terre. Il va apparaître une deuxième fois pour instaurer son règne de façon incontestée. Il est en route, d'une certaine manière. En tout cas, il a promis, il se prépare pour ça. Du coup, la réponse qui est juste de notre part, c'est ne pas désespérer. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, dans cette période de Noël, mais patientez. Patientez activement. Patientez avec confiance. Jésus a promis qu'il revient et il va nous libérer. Nous devons attendre patiemment et avec confiance et obéir dès à présent à ce chef suprême qui arrive. Troisième chose, parce que justement son règne est un règne de justice. Christ vient pour manifester la justice divine, le jugement sur ses ennemis. Vous avez vu ça au verset 12. Ses yeux sont comme un feu flamboyant. Et ça, juste en termes imagés, Jean essaie de trouver des mots qui peuvent décrire la réalité, mais Dieu voit tout. Dieu éclaire tout de son propre regard. Il n'a pas besoin d'une lumière extérieure, mais lui-même est la lumière. Et quand il regarde, quand il scanne nos vies, il sait absolument tout de nous. Tu peux croire que tu es à l'abri, tu peux croire que tu as suffisamment bien arrangé les choses pour cacher ce qui dérange, avoir mis sous le tapis, vous savez, un peu la poussière là. Mais ça tient pas devant Dieu. Dieu, Jésus-Christ, ses yeux sont comme un feu flamboyant. Il sait tout de toi, de ta vie, de tes motivations, de tes pensées. Une épée sort de sa bouche. S'il est un juge réel, il doit prononcer les sentences. Vous savez ce qui se passe quand un accusé est amené devant le juge, il y a un débat contradictoire, la défense et les attaques sont mises là devant tout le monde, devant le juge en particulier, on présente les preuves d'un côté comme de l'autre. Mais au final, celui qui a le dernier mot, c'est le juge. Et comment est-ce qu'on sait ce que le juge décide? C'est parce qu'il parle. Il dit coupable ou il dit non coupable. Et une fois que la parole est sortie de sa bouche, il tape avec le marteau. Il n'y a plus personne qui peut dire l'inverse de ce qui a été prononcé maintenant. Pour Jésus, c'est la même chose. Une épée à double tranchant sort de sa bouche. Vous connaissez cette épée à double tranchant? Elle est comme les yeux flamboyants. Elle pénètre jusqu'à la division des jointures et des moelles, de l'âme et de l'esprit. Elle pénètre au plus profond de ce qui fait notre vie. Personne ne peut se cacher. Tout est à nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Plutôt impressionnant. Mais en même temps, si on veut une vraie justice, pas une justice d'apparence, mais la justice telle que les choses sont vraiment, il faut quelqu'un qui ait cette autorité-là. Quelqu'un qui n'usurpe personne. Quelqu'un qui, quand il prononce son jugement, ce soit fait de façon incontestable. Jésus est en train de dire que, au jour dernier, ce sera comme lui a dit, selon son jugement, que les choses seront. Il dira coupable ou non coupable. Il dira adopté, je prononce l'adoption dans la famille de Dieu. Troisième aspect de sa justice et de son règne de justice, c'est que si vous avez la possibilité de voir clairement les choses, si vous avez l'autorité pour dire une parole qui donc établit une sentence, il faut que vous puissiez mettre en œuvre cette sentence, n'est-ce pas? Si le juge condamne quelqu'un mais qu'il n'y a pas une force de police pour arrêter cette personne, pour la mettre en prison, alors il n'y a pas de justice au final. Il faut que cette force soit juste elle-même. Il ne faut pas qu'il y ait de corruption, il ne faut pas qu'il y ait de choses, de favoritisme qui soit fait une fois que la sentence est prononcée. Regardez comment elle est cette armée, au verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. Ce n'est pas juste Christ qui est juste, mais toute son armée, toute sa force est juste. Toute son armée est revêtue de justice. Elle est légitime pour accomplir ce que Dieu a décidé. Alors, la juste réponse dans cet avant pour nous, c'est de nous repentir, de reconnaître nos fautes. On l'a dit ce matin, on reste encore en lutte avec le péché. Et ce serait stupide de vouloir essayer de cacher nos fautes devant Dieu. Venons plutôt devant celui qui est juste et qui peut nous donner sa justice. Parlons-lui de ce qui fait nos difficultés, nos luttes. Demandons-lui pardon. Si vous êtes devant un juge, même que vous avez mal agi, est-ce qu'il n'aura pas compassion de quelqu'un qui demande pardon? Repentons-nous et cherchons la justice de Dieu. Et je voudrais vous dire une quatrième idée maintenant, pour vous encourager. Parce que la justice de Dieu, elle se définit pas selon nos critères, et heureusement. Elle se définit pas selon la somme des bonnes actions des hommes. C'est pas l'histoire du Père Noël, tu as bien agi, tu étais sage, tu auras un bon cadeau, une belle rétribution, tu as mal agi, ah, il n'y a plus de chance pour toi. En fait, la justice de Dieu, elle nous apparaît ici au verset 13. Regardez avec moi. Jésus, il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Trempé de sang. Et si vous lisez le reste d'Apocalypse et si vous avez connaissance de l'ensemble de l'histoire de la Bible, voilà comment Dieu peut être compatissant envers ceux qui sont injustes mais qui demandent pardon. Il va pas faire comme s'il ferme les yeux et comme s'il disait bon, faisons comme si rien ne s'est passé. Il peut pas faire ça. Il a très bien vu, ses yeux sont flamboyants, vous vous rappelez? Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion, a donné son fils Jésus. Il a pris sur lui, Jésus a pris sur lui la punition, le châtiment qui devait tomber sur nous. C'est à cause de nos transgressions, de nos fautes, qu'il a été cloué sur la croix, que son sang a coulé. Et c'est ce sang-là qui nous purifie, qui purifie tous ceux et celles qui mettent leur confiance en Jésus de leur péché. Alors, Dieu est juste tout en étant capable de justifier tes pécheurs. C'est le grand message de toute la Bible. Et si, juste le point d'avant, tu as dit, mais comment est-ce que je pourrais même m'approcher de Dieu, sachant ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce qu'il acceptera mon pardon? Voilà la réponse ici. Oui, tu peux. Pas de tes propres forces à toi, pas parce que tu peux te comparer avec d'autres autour de toi et dire, je suis quand même un peu mieux que mon voisin. Personne n'est au bon niveau. Et nous avions besoin de Jésus qui prenne sur lui la condamnation. La justice de Dieu est satisfaite à la croix. Et c'est pour ça qu'on peut venir à Dieu sans crainte, par Jésus, et recevoir son pardon. Mais certains continuent de s'opposer à Jésus. Et c'est ce qu'on lit aussi. Il y a deux choses dans le jugement. Ceux qui acceptent les termes de la réconciliation sont réconciliés. Ceux qui refusent les termes de la réconciliation obtiennent ce qu'ils cherchent. Ils ne sont pas réconciliés. Vous voyez ça au verset 15. De sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il doit frapper les nations. C'est lui qui les fera paître avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule la cuve du vin de la colère ardente de Dieu, le Tout-Puissant. Ça fait référence à un épisode ou un passage, plusieurs passages dans les Écritures, en particulier dans l'Ancien Testament, avec cette image d'une grande presse à raisins. Et la récolte est faite, et tous les raisins, les grappes de raisins sont rassemblées maintenant dans cette grande cuve, et puis dans cette grande cuve, pardon, et puis maintenant les raisins vont être foulés. C'est le symbole de la colère de Dieu qui s'abat sur ceux qui refusent, qui méprisent la justice de Dieu, qui pensent qu'ils pourront s'en sortir eux-mêmes, ou qui estiment que leur justice est suffisante. Alors il y a la vie pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il y a la vie pour ceux qui se placent au bénéfice du manteau trempé de sang de Jésus, qui sont couverts par son sang à lui. Et il y a le jugement pour ceux qui n'écoutent pas et qui se détournent de la justice de Dieu. La réponse, alors, c'est de se positionner, d'être au clair ce matin en repartant, pendant cet avant. Où en êtes-vous par rapport à Dieu ? Et la supplication de ce passage, comme de toute la Bible, et celle que je veux relayer encore, c'est « Ne persistez pas loin de Dieu, car le juge vient. » C'est encore un temps de grâce, c'est encore un temps pour se tourner vers lui, obtenir le pardon. Mais un jour il vient, il établira la justice, et la colère de Dieu tombera sur ceux qui la refusent. Le passage se termine en disant, verset 16, que sur le vêtement aussi de Jésus et sur sa cuisse, un nom est écrit. S'il agit, s'il fait ce qu'il fait, s'il est en train de se mettre en route pour venir, vous voyez l'image de la cuisse et les jambes, c'est le mouvement, c'est parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Personne ne viendra faire obstacle au plan de Dieu. Et je voudrais juste terminer, après tout ce que j'ai dit ici, en vous exhortant alors à louer et bénir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui apporte un si grand salut. Si vous regardez dans le contexte du passage, au début du chapitre, c'est ce que nous lisons. J'entendis comme la voix forte d'une grande foule dans le ciel qui disait, verset 1 du chapitre 19, « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée. » C'est cette image de l'humanité loin de Dieu, qui refuse Dieu, décrite comme une grande prostituée. Il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution, et il a vengé le sang de ses esclaves en le lui réclamant. Ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et on voit tout le ciel en train de se prosterner devant Jésus. Et on entend cette voix qui invite tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, en Jésus. Du trône sortit une voix qui disait, louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous qui le craignez, petits et grands. J'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit de forts tonnerres qui disaient, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, a instauré son règne. Ça a été instauré au moment de la venue de Jésus comme petit bébé. Il règne déjà maintenant. Et même si parfois on a du mal à le voir, ne doute pas que Dieu, Jésus, est en train de régner maintenant. Et bientôt, il revient. Et là, il n'y aura plus de contestation. Tout œil le verra et tout genou fléchira devant lui. Réjouissons-nous alors, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. L'épouse qui est décrite ici, c'est l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Ah ! Ce que nous désirons tellement, ça nous a été donné par Jésus, lavé de nos péchés. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit, écrit, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Vous êtes invités aux noces de l'agneau. Préparez-vous, parce que c'est bientôt. Je vous invite à quelques secondes de silence et après ça nous chanterons ensemble un chant et partagerons le repas du Seigneur.